Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. Témoignage d'exil de trois générations. Une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives et la région Languedoc-Roussillon.
Guérilla, un terme emprunté à l'espagnol, utilisé pour décrire des combats en petits groupes mobiles et flexibles, pratiquant une guerre d'embuscade, de coups de main, menée par des troupes de partisans sans ligne de front. Un siècle après les premiers guérilleros qui luttaient contre les armées napoléoniennes d'occupation, il s'agit encore de libérer l'Espagne. Mais l'oppresseur, cette fois-ci, est lui aussi espagnol. Ni l'échec de la Reconquista du Val d'Aran à l'automne 1944, ni la dissolution l'année suivante de la Unión Nacional Española qui l'avait initiée, ni même la non-intervention des puissances alliées, rien ne semblait pouvoir entamer la détermination de guérilleros dont l'action a perduré dans certaines régions d'Espagne jusqu'au début des années 60. Selon Odette Martinez-Maller, professeure agrégée de lettres modernes et fille de guerriero, la résistance antifranquiste a mobilisé entre 5000 et 6000 hommes et femmes en armes et plus de 20 000 agents de liaison. Il a fallu attendre le 16 mai 2001 pour que le Congrès des députés espagnols vote à l'unanimité moins une voix la réhabilitation morale de ces combattants, jusque-là considérés par l'administration espagnole comme des bandits et des terroristes. Levée partielle d'un interdit de mémoire, un interdit emblématique du « pacte d'oubli » entre guillemets, scellé en 1976. Un interdit que Odette Martinez estime révélateur de la façon dont s'est écrite l'histoire officielle de la résistance au franquisme.
La guerre civile officiellement a terminé le 1er avril 1939.
Jean Serra, fils de républicain, né à Barcelone en 1954. Il mène un travail photographique de quête mémorielle sur les traces de la guérilla antifranquiste en Aragon.
Dans beaucoup de régions d'Espagne montagneuses, des gens ont pris le maquis pour résister, pour espérer une intervention de forces alliées qui seraient venues enlever Franco et restaurer la légalité républicaine. Cette intervention n'a jamais eu lieu, mais des gens ont résisté dans les montagnes pour certaines jusqu'en 1957. Ce qui est très impressionnant.
Parfois avec le soutien logistique de...
du Parti communiste ici en France, hein, et un soutien logistique qui était un peu à double tranchant. Mais bon, ça serait peut-être une autre histoire longue à développer qui dépasserait le cadre de l'interview. Mais en effet, il y a eu des gens qui sont revenus, des anciens combattants de la guerre d'Espagne qui étaient passés ici en France et qui ont combattu le nazisme ici en France, dans les maquis contre les Allemands. Qui sont revenus en Espagne, qui ont pris les armes à nouveau, dans les montagnes de l'Aragon, dans les montagnes des Asturies, dans les montagnes de l'Extrémadura, dans beaucoup d'endroits d'Espagne, pour continuer la bataille contre le fascisme. Pour eux, ce n'était pas tellement le problème de la France, de l'Espagne, ou de quoi que ce soit, c'était combattre le fascisme. Et c'est des gens qui, on en a rencontré un en particulier, qui est encore en vie, qui est un des derniers, qui est un homme qui m'a beaucoup impressionné. Son parcours, il a été dans la guerre civile. Son nom de guerre était Chaval. Son prénom, il a publié un bouquin, donc il n'y a rien de secret là-dedans. Hein. Il a publié un bouquin qui s'appelle Cordillera Ibérica, Memorias y Olvidos de un Guerrillero. Cordillera Ibérica, c'est le système de montagne où il s'est battu. Mémoire et oubli d'un guerrillero. Donc il s'appelle José Manuel Montorio. Donc il a participé à la fin de la guerre, il était très jeune, de son appellation Chaval. Il est passé ici en France, il a été dans des réseaux de résistance, il a eu des actions de maquis contre les Allemands. Quand la guerre est finie, il a fait partie de la tentative de reconquête de l'Espagne dans le Val d'Aran par la guérilla. Et puis après, il a fait partie donc de l'AGLA, Association Guerrillera de Levante y Aragón, donc la guérilla qui a fonctionné dans la région de la province de Cuenca, de l'Aragon, du Sud-Aragon et de Alicante-Valencia. Il y a un petit morceau de la province de Tarragona. Donc ce mouvement qui a été actif jusqu'en 1952 et qui a mené une quantité d'actions que l'on ne soupçonnait absolument pas et on finirait jamais ce travail de mémoire là-dessus.
Là,
Il y a eu deux types de guérilla. Il y a eu une guérilla très volontaire, des gens qui ont décidé de rester sur place pour lutter. Il y a eu une guérilla qui s'est imposée à eux.
Antonio Rodriguez Yuste.
Des gens qui, au moment où Franco a décidé que c'était la fin de la guerre, qu'ils avaient gagné la guerre, eh bien, c'est une certaine partie de la population, des gens qui étaient donc engagés dans le camp républicain, savaient qu'ils étaient mis à mort. Et donc, il fallait se cacher et il fallait survivre. Il y en a même qui sont allés très loin pour survivre. Il y a des gens, ceux qu'on a appelés les topos, les taupes, qui sont restés cachés, parfois dans des caves, pendant 20 ans. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait une amnistie. Ils sont restés hors du monde. Mais bon, ces gens-là, bien souvent, ont tenté, après, au fur et à mesure, de passer en France. Après, une partie d'entre eux était aussi dans l'attente d'une intervention qui a eu dans le Valle d'Arán à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Des Espagnols qui avaient participé aussi à la Deuxième Guerre mondiale auprès des Alliés ont passé la frontière et voulaient mettre en place un mouvement de résistance fort comme celui qui avait existé en France. Et ça a été un échec parce que la population, elle n'était plus dans une résistance active. Elle était plus dans une résistance passive. Il fallait survivre, il fallait manger.
On a grimpé dans la forêt.
Enrique Melich.
On a trouvé un chercheur de champignons espagnol. Il n'avait pas l'air de nous attendre parce que paraît-il qu'on nous attendait de l'autre côté. Celui-là, il n'avait jamais entendu parler de maquis. Quand il s'est trouvé nez à nez avec 25 bonhommes armés, il ne devait pas trop savoir quoi penser. On a passé un jour ou deux, je ne sais pas, deux, trois peut-être. Et ce jour, on a trouvé un berger. On devait trouver un berger. Mais ce berger devait nous donner des indications. Mais ce berger qu'on a trouvé n'avait rien à voir avec celui que nous cherchions, puisqu'il ne savait rien de rien. Au contraire, quand il nous a regardés, il a vu qu'il y en avait qui étaient très jeunes. Il a dû se dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans la guérilla en Espagne, mais enfin, il a eu l'air de dire qu'on était mal partis.
Ici, los guerrilleros de carácter plutôt comunista, réfugiés en France, après avoir collaboré avec la résistance française, ils ont créé la Union Nationale. Ils ont passé dans l'illusion que simplement ça, le peuple espagnol se soulève.
Emilio Valls, né à Barcelone en 1924. En 1945, il abrège son service militaire sous les drapeaux franquistes pour rejoindre clandestinement son père en France.
Alors, beaucoup d'illusions. Mon père y a été, mais il a vu ce qui s'est passé. Il recrutait. C'était une façon de récupérer de n'importe quel parti. Parce que c'est vrai que la désunion entre les partis et les idéaux, c'est vraiment, c'est conservé. L'Espagne, on a vu le film, ces guerrilleros qui voulaient que l'Espagne se soulève au passage de la frontière, je pourrais répondre, qui avait 8 classes dans les casernes. 8 classes. Toute la jeunesse sur Franco. En plus, sans moyen, aucun moyen, tous les autres qui étaient survivants, ils étaient à la prison. Ces personnes qui pouvaient réagir, des idéalistes, des hommes d'action. Si, il y en a eu, malgré tout, il y en a eu, mais c'était une folie. C'était une folie, parce que c'était, je vous parlais de Barcelone, il y avait, je ne sais pas combien, des milliers qui se promenaient dans toutes les rues, partout. Donc nous étions surveillés. Alors, quoi faire?
Je suis communiste.
Je suis communiste, mais ce qu'ils m'ont fait à moi, c'est pas communiste. Manuel González, né en 1914 dans la province de Lérida, ancien combattant républicain et résistant français, il participe à la tentative de reconquista de 1944. Parce que par exemple, envoyer un groupe de 70 personnes que je commandais,
à France, à Espagne,
pour retourner en Espagne et libérer l'Espagne. Ça, c'est un crime.
Passer la frontière pour aller à libérer l'Espagne.
Passer la frontière pour libérer l'Espagne.
Libérer l'Espagne.
Et comment on allait libérer l'Espagne à 70 types?
Je cogí a dos tenientes, en fin, à los jefes de l'équipe que tu
as. Un jour, j'ai réuni les lieutenants et je leur ai dit, bon, et maintenant, vous voulez qu'on continue ou qu'on se replie?
Ir para atrás. Y dijeron, pa'lante, no, no puede ser, no podemos ir.
Ils m'ont dit, avancer, c'est impossible, impossible, il faut faire demi-tour. Et alors, on est revenu. Dans le froid, dans l'eau, enfin bon. C'était vraiment criminel. Et puis on arrive en France. Et là, il s'en est fallu de peu que je sois fusillé.
Pourquoi?
Il y avait un type dans le groupe qui ne voulait pas qu'on se replie. Lui, il voulait continuer. Donc il est allé me dénoncer au supérieur.
Oui.
Et voilà, c'est pour ça que je dis aujourd'hui que même si je suis communiste, je suis à moi, je n'appartiens à personne. Avant, je leur appartenais, mais je ne me ferai plus avoir.
La guérilla avait pour règle de ne pas dormir dans les fermes. Mais la vie dans la montagne est très dure, l'amplitude thermique dans les montagnes de l'Aragon est très forte, hein. C'est un climat continental dur avec une exposition fréquente au vent du nord, donc des températures de moins 20, moins 30 ne sont pas exceptionnelles. Tous les ans, ça arrive encore aujourd'hui avec le réchauffement de la planète, encore plus sans doute à l'époque. Et les gens qui vivent dans les montagnes vivent dans des conditions extrêmement dures. Donc quelquefois, il est arrivé la plupart, tout le temps, il s'est ravitaillé dans les fermes. Sans les fermes, il ne pouvait pas se ravitailler. Le José Manuel Montorio, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, nous a dit que la force de la guérilla était le soutien de la guérilla. Ils avaient, d'après lui, plus de risques et plus de mérites que ceux qui étaient actifs dans les montagnes. Donc il leur arrivait de dormir dans les fermes, et ça c'était un piège total. Beaucoup ont été mouchardés et tués comme ça.
Si on sortait chercher de quoi manger, dans les fermes, tout autour, on se faisait tuer. Parce que la Guardia Civil occupait les fermes, ils étaient dedans, ils t'ouvraient la porte. Ils avaient une mitrailleuse là-dedans. Alors, il y a la moitié de notre groupe, c'est-à-dire une trentaine de types environ, qui est parti chercher de la nourriture au village. Ils sont arrivés au village, là ils ont réclamé de la nourriture, les habitants ne leur ont rien donné, ils avaient peur. Parce que s'ils ne nous dénonçaient pas, ils se faisaient tuer.
Il y a eu à Pitarque, un tout petit village très, très beau, une histoire qui s'est passée avec deux personnes dont la garde civile a dit qu'ils s'étaient suicidés, un jeune couple. Un monsieur de 65-70 ans à peu près, très timide, très doux, avec qui on avait un bon contact, frappe un jour à la porte de l'endroit où on était, et il dit, allez à Pitarque, il y en a deux, on dit qu'ils se sont suicidés, mais, et il fait un geste avec la main, disant, je n'y crois pas, et il s'en va. Nous allons à Pitarque, nous posons des questions, certains nous répondent, d'autres pas, et quelqu'un nous dit la même chose, il nous dit oui, la garde civile a dit que c'était suicidé, mais probablement ce n'est pas ça. Mais on cherche à savoir cette histoire, on n'en sait pas beaucoup plus. C'est ce qu'on nous montre très clairement, c'est qu'ils ont été tués par la garde civile, et que la garde civile a camouflé ceci en suicide. On part dans la montagne à la recherche d'une ferme qui n'avait rien à voir avec ça. On se trompe de piste, on se perd un petit peu, et on trouve un berger. Et il nous dit, mais qu'est-ce que vous voulez aller foutre là-bas? Et on lui explique ce que l'on fait, et on lui dit qu'on vient de Pitarque, qu'on nous a raconté cette histoire de suicide. Il fait deux pas en arrière, il devient grave, il dit, comment si venait se suicider? Era mi hermano. Comment ils allaient se suicider? C'était mon frère. On est tombé par hasard Enfin, j'ai encore la chair de poule en en parlant. Sur quelqu'un qui était le jeune frère de ce garçon, il nous raconte la vraie histoire. C'était un jeune couple, ils étaient heureux comme tout, ils n'avaient pas de raison de se suicider, et bien sûr, ils ne se sont pas suicidés. Il s'est passé que la guérilla était à Pitar qui est en train de se ravitailler, que la police est arrivée, probablement sur un mouchardage. La guérilla est partie dans la montagne, et pour fuir plus vite, hein, ils ont abandonné un sac de farine. La police, trouvant ce sac de farine, a cherché à savoir qui l'avait fourni, et sous la torture, le père de la fille a dit que c'était son gendre. La police n'a fait ni une nuit, ils ont été chez les gendres, ils ont pendu les gendres à la fille, à la poutre maîtresse de la maison. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Curieusement, ceux qui sont pris par une espèce de loi du silence, c'est les enfants, des gens qui ont participé activement à la guérilla. Les petits enfants veulent savoir. On est en contact avec de jeunes hommes, de frères qui ont la trentaine d'années. Ce sont de personnes adorables et extrêmement actives. Eux, leur grand-père, ils ne savent toujours pas comment il a disparu. La version officielle de la famille, c'est qu'il a été foudroyé. Quand ils demandent où il est enterré, il y a une espèce de silence. Ils ne savent pas que ce qu'il est advenu de leur grand-père, mais ils savent que c'est... Que probablement il n'a pas été foudroyé, qu'il a été tué par la garde civile et jeté dans un coin. C'est des lieux qui ont été témoins d'affrontements entre la garde civile, la guérilla, des représailles de part et d'autre, des assassinats ciblés, des embuscades, des mouchardages, des histoires rarement drôles, quelquefois, la plupart du temps terrifiantes.
De clandestin ici, ça a été autre chose. Il fallait aider les copains qu'il y avait là-bas.
Ramon Bourg, né à Barcelone en 1921, successivement combattant républicain, résistant en France, déporté, et puis agent de liaison de la résistance antifranquiste.
Et le samedi, je quittais mon boulot, voiture, et hop, frontière, et je passais des journaux et tout. Le travail clandestin. Et j'avais organisé les gars là-bas.
La lutte armée a continué après la fin de la guerre.
Oui, mais après on s'est rendu compte que c'était de la connerie. Parce qu'on mettait des gars, toute la partie de Teruel, Valence, Castellón, de la Plana, tout ça, c'était plein de maquis. Mais on a dit, qu'est-ce qu'on fait de ça? Les gars, comment j'allais vous faire chez les paysans et tout, mais c'était trop dangereux. C'était de l'idiotie. Il y en a beaucoup qui sont passés par là, ils sont partis. On a retiré presque tous. Tous les maquis, on les a dissous. Mais moi, j'étais pas dans le truc armé. Non. Ceux qui faisaient rien ou qu'il y avait ils étaient dans un compromis ou dans des maquis et qu'ils ne pouvaient pas retourner ni dans la famille, ni à l'usine, ni rien. On les a menés vers ici.
Donc, c'est Manuel Montori m'a beaucoup impressionné par sa détermination. C'est un homme qui, encore aujourd'hui, est très impressionnant. Après donc, l'évacuation qu'il a été chargé d'organiser, hein, en 1952, le Parti communiste lui a demandé d'organiser l'évacuation des derniers guerriers de l'AGLA. Et donc, la fuite en France. Et puis, il a failli être amené en Indochine, parce qu'ici aussi, il a été, bien sûr, persécuté. Les républicains espagnols n'étaient pas forcément les bienvenus. Et il a passé beaucoup de temps en Tchécoslovaquie, à Prague, après, où il a continué à être actif. Il est revenu en Espagne en 1998. Il habite maintenant dans le village où il a vu naître. Et c'est un homme qui raconte facilement cette histoire et qui, encore une fois, est très impressionnant dans sa détermination.
C'était la résistance au franquisme, avec Jean Serra, Manuel González, Antonio Rodríguez Juste, Emilio Valls, Henrik Melich et Ramon Bourg. Témoignage recueilli par Marianic Bello, Michel Béchereau et Manuel Plaza. Musique originale Guillaume Séguron, un documentaire de Manuel Plaza, Divergence FM. Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. Témoignages d'exil de trois générations, une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon et la région Languedoc-Roussillon, direction de la culture et du patrimoine.